La Béance de Sandrine Fabry. Vers 1200, Béance signifie désir, intention. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas les moyens d'oublier. Nous sommes ainsi faits, nous vivons pour savoir et pour nous souvenir. Imre Kertész, Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas. Va te coucher. Mais tais-toi. C'était sans réplique. Avant, tu m'as emmené avec toi. Demain, c'est dimanche. Demain, on part. On part en vacances. Maintenant, on a rendez-vous. Il faut se dépêcher pour aller les voir, tous. Ta mère, ta sœur, ton ami, ton psychiatre même. Pourquoi ? Je t'ai attendu, dans la salle d'attente. Je ne sais pas ce que tu lui as dit à ton psychiatre. Je sais seulement que j'étais angoissée. Tu n'as pas eu besoin d'insister pour que je t'accompagne, partout. Depuis le matin, je t'ai suivi à la trace, une peur instinctive accrochée au ventre, je t'ai observé, surveillé. Fruit de tes entrailles, les miennes me tenaillaient. Nous n'avons rien fait d'autre que voir des gens. Nous n'avons pas bouclé les valises. Tu as appelé quelqu'un, par téléphone. J'étais à côté de toi. Prends soin de ma fille, s'il m'arrive quelque chose. Tu as dit ça, tranquillement, en me regardant. Tu ne m'avais rien demandé. Je ne t'avais rien demandé, de semblable. Tu me regardais, sans me voir. Tu m'ignorais. Tu étais où ? Loin de moi, ça c'est sûr, mais où ? Je ne veux pas que l'on prenne soin de moi. Pourquoi devrait-on prendre soin de moi ? S'il m'arrive quelque chose. Je prendrai soin de moi. Que doit-il t'arriver ? Il va arriver quelque chose, je le sais. C'est pour ça que depuis le matin, je t'ai suivi à la trace, sans comprendre ce que tu faisais, sans comprendre cette peur accrochée à mon ventre, boule noire que je n'arrive pas à avaler, mauvais songe qui me suit, me poursuit partout, sale présage en ce mois de juillet, mois de chaleur, demain, c'est dimanche. Demain, on part en vacances, nous aussi. Petit chien épouvanté, je t'ai suivi à la trace, je n'ai pas jappé pour ne pas montrer ma peur, mais j'ai pensé si fort que tes tympans auraient dû éclater. Garde-moi près de toi, ne me chasse pas, ne m'abandonne pas. Nous sommes allés sur le balcon, eux, ils étaient en bas. Mes amis assis sur l'herbe verte. Ils bavardaient, prenaient du bon temps. Libres de l'école, ils m'ont vu, ont voulu me parler. Je n'ai rien pu dire. Sous moi, la terre a vacillé. Le sol s'est dérobé. Mes amis assis sur l'herbe verte ne remarquaient rien, ne dérapaient pas. Comment était-ce possible ? Moi, je glissais emporté, précipité hors du balcon. Toi, tu me regardais, encore, toujours, immobile, impassible. Tu ne disais rien face à moi, aimanté par le vide. Tu n'as pas eu une caresse pour assurer le petit chien qui a réussi à s'enfuir, à se cacher dans le salon pénombre lénifiante. Un temps trop court. Il était temps de manger. Tu as préparé le dîner. Le poulet était cru. Et tu m'as envoyé à la niche. Lâche-moi, cesse de me suivre à la trace. Va te coucher. Le petit chien est allé se coucher. Maintenant, je suis dans une pénombre qui n'a plus rien de lénifiant. Devant moi, la perspective d'une profonde nuit hantée par la peur. Blanche est la peur qu'on n'en comprend pas. Où est le danger ? Où ? Je ne peux que rester en état de veille, tous les autres sens aux aguets, sentir pour prévenir, bondir avant que. Garder les yeux ouverts pour ne pas être anéanti par l'horreur, guetter encore, te suivre à la trace en pensée à Louis puisque je suis dans la niche sur ma couche, étendre une embuscade au danger qui n'a pas dit son nom mais s'est annoncé. Demain, c'est dimanche. Demain, on part, en vacances. Le danger est là, tapi dans l'ombre de la nuit. Pour ne pas glapir, je me concentre, j'entends l'eau de la baignoire. Tu prends un bain, Voilà, c'est ça. Je sais où tu es. Tu prends un bain, tu es dans la baignoire. L'eau chasse ma peur. L'eau, onde bienfaisante, ruisselle sur ma douleur. Mais l'eau coule trop. Trop longtemps. Le fracas me terrasse. Sylvia, qu'as-tu fait ? Quelqu'un a crié. Mon père. Le silence est devenu assourdissant. Tout s'est immobilisé. Je n'ai pas su bondir, tendre une embuscade au danger, te retenir. Je ne te suivais plus à la trace. Le petit chien n'a pas pu te mordre les mollets, déchirer tes habits, se coucher sur toi. Rester là, sur toi, plaqué au sol, t'empêcher de... L'horreur a succédé à la peur. L'horreur a dit son nom après s'être annoncée. Figé dans mon lit, les yeux fixés sur le vide, j'attends. J'attends que mon père vienne. Il est là, dehors, tout près, près de moi, en bas. Je l'ai entendu crier, il va venir, forcément. Il va m'enlever à mes draps moites de sueur froide, m'arracher au silence livide. Il va me dire, elle, oui, elle, elle a, elle est. Mais ce n'est pas grave, elle. Il ne vient pas. Je me lève. Je m'approche de la fenêtre. J'ouvre la fenêtre. Et je te vois, en bas, sur l'asphalte. Tu n'étais pas dans ton bain. Tu n'as jamais été dans ton bain. L'eau qui coulait n'était qu'une feinte. Je t'ai obéi. Tu m'as trompé. Le petit chien est allé se coucher. Jamais je n'aurais dû aller me coucher. Maintenant, toi, tu es en bas, couché sur l'asphalte. Moi, je suis en haut, debout, seul. C'est ça que tu voulais ? Toi en bas, moi en haut ? Toi couché, moi debout ? Lui, mon père, ne vient toujours pas. Il ne viendra pas. Maintenant, je le sais. J'enfile mon peignoir. Je prends les clés, je sors. J'appuie sur le bouton de l'ascenseur, je descends. 4 étages. Je suis en bas, moi aussi. J'ouvre la porte. Je reste paralysée dans l'embrasure de l'ascenseur sous la lumière jaune gluante du plafonnier. Face à moi, une voisine et la concierge me regardent. Muette. Face à moi, mon père marche, bras dans le dos. J'attends. Il relève la tête. Il me voit. Ses yeux me chassent. Il a hurlé contre moi. Je ne suis plus un chien. Je n'obéirai plus. Non, je ne retournerai pas là-haut. Là-haut, il n'y a personne. Il n'y a plus personne. Je veux aller près d'elle, près de toi. Un tremblement a saisi, envahi tout mon corps. Je n'arrive pas à le maîtriser. Il s'amplifie, la valse de mes dents, le tintement des clés. Comment faire pour masquer, cacher ? Je m'extirpe de l'ascenseur. Je traverse le hall de l'immeuble. Je m'assieds à côté de la voisine et de la concierge sous le radiateur de fer en zigzag qui pénètre dans les chairs des cuisses, des fesses. Je tremble de plus en plus, je comprime de toutes mes forces mes fesses contre le radiateur de fer en zigzag pour que le tremblement le cède à la douleur des chairs. Mon père marche, bras dans le dos. La voisine et la concierge restent muettes. Toi, tu es couché, tout près, dehors, sur l'asphalte. La baie vitrée de l'allée nous sépare. Je ne te vois pas. Tu es caché par des voitures. Je n'arrive pas à me lever. Lui, mon père, fait barrage entre toi et moi. Ici, il me tolère, à contre-cœur. Il ne me laisserait pas aller vers toi. Ton frère arrive. Nous traversons la ville obscure. Je ne parle pas. Je rêve. Plus rien ne sera comme avant. Maintenant, je sais. Je connais ta souffrance désormais dans ma chair incarnée. J'ai vécu la peur avec toi, puis l'horreur s'est gravée en moi. Dorénavant, tout sera différent. Je serai avec toi, ta complice, je te protégerai. À l'hôpital, demain, je te dirai que j'ai compris, que je t'ai comprise. Oui, je n'ai que 11 ans, mais maintenant je sais ce que nous devons faire, ce que nous allons faire. Tu es blessé, c'est peut-être grave, très grave même, mais tu seras recousu, ma mère fracassée. Il faudra du temps, beaucoup de temps, mais nous attendrons que tu ailles bien. Et dès que tu le pourras, ensemble, nous fuirons, loin de lui, loin du père. Jamais plus je ne serai cruelle avec toi, cruelle pour t'échapper. Non, nous serons unis, nous nous échapperons ensemble. Demain, je serai à côté de toi, avec toi, et je te dirai enfin ce que je ne te dis jamais, ce que tu attends de moi depuis si longtemps. Demain, je te dirai, maman, je t'aime. Couché sur un lit de camp dans la chambre de mon oncle, je reste les yeux grands ouverts derrière mes paupières closes. J'attends demain. Il a dû se faire beau, peigner en arrière ses cheveux d'un blond si clair, mettre un costume sombre, une chemise blanche, des chaussures de cuir, une cravate aussi, bien sûr. Il a 34 ans, il est encore célibataire. Il vient de trouver un emploi inespéré, lui, le mécanicien de précision devenu apprenti à 14 ans au chantier naval de Monfalcone, près de Duino, où une vingtaine d'années auparavant, Rilke composait ses élégies dans la somptueuse protection de la princesse Marie von Thurn und Taxis. Après la guerre, après avoir été partisan de Tito, il est parti à Zagreb. Pendant 10 ans, il a cru au socialisme autogéré. Et puis, il a cessé d'y croire. Alors, il est parti, de nouveau, grâce à son passeport italien. Après la chute de l'Empire austro-hongrois, son père slovène s'était établi à Monfalcone, en Italie, pour le travail. Parce que c'était lui déjà qui était mécanicien de précision, et qui était allé chercher un emploi au chantier naval. Il y est resté, n'a pas anticipé sur le fascisme et ses conséquences. Alors comme tous ces Slovènes de la région frontière, de Trieste à Tarvisio, en passant par Gorizia et Udine, il s'est retrouvé, lui et sa famille, avec un nom, un prénom et un passeport italien, imposé par l'administration mussolinienne. Voilà, c'est tamponné. Dorénavant, vous n'êtes plus des Slaves, maintenant vous êtes des Latins. Soyez contents que l'on vous accueille, que l'on vous assimile. Mais en 1956, le passeport de la terreur fasciste est devenu le passeport de la liberté démocratique. Un blanc-seing pour l'Ouest. Son père est mort déjà à Zagreb. Lui, il peut légalement quitter la Yougoslavie aux frontières encore hermétiquement closes pour ses ressortissants. Il sait où il va. Son patron croate lui a trouvé du travail, au Tessin. Il parle la langue, ça aide. Mais l'ambiance est mauvaise, raciste. Les soirées finissent en bagarre, des corps à corps. Il a été partisan, il s'est battu contre les fascistes. La Seconde Guerre mondiale est finie depuis 10 ans. Il se retrouve à se battre dans un pays neutre, un comble. Les Tessinois détestent ceux qui leur ressemblent le plus. Les Ritals. Eux, les Tessinois, ils sont Suisses. Même s'ils parlent italien, ils n'ont rien à voir avec les Ritals. Lui, il est slave, slovène, mais il a un prénom, un nom, un passeport italien, et il parle italien. Alors, elle est expliquée. De toute façon, être un Yougo, c'est pas beaucoup mieux. Encore une fois, il a de la chance. Son patron tessinois lui a trouvé une place à Genève. Il la prend, ne la garde pas longtemps. Il a décroché l'emploi inespéré, au CERN, à l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, fondée 2 ans auparavant, qui inventera des années plus tard le World Wide Web et construira l'accélérateur de particules le plus puissant au monde. Grâce au CERN, le mécanicien de précision immigré devient fonctionnaire international. Sans changer de métier. Ce soir, le mécanicien de précision immigré, devenu fonctionnaire international, sort. C'est pour cela qu'il a dû se faire beau. Il va dans la bonne société de la ville écouter un concert donné par les cadets de Genève, une institution dans la cité de Calvin. Lui, il aime la musique, surtout la musique classique. Adolescent, il a joué de la trompette dans la fanfare de son village. Depuis, il est devenu assidu des salles de concert et des opéras. Les cadets de Genève, ça l'intéresse, et il veut s'intégrer. Alors, il entre dans ce grand hôtel de la rade. Il pénètre dans les salons, et il la voit. Il la voit, et il est foudroyé, contre tout bon sens. Elle est petite, sensuelle, provocante, elle rit, libre, insouciante. Elle est bien plus jeune que lui. Il ne voit qu'elle. Lui, il a des manières désuètes, même dans cette bonne société genevoise. Mais il tient à sa galanterie. Il pense qu'elle ne peut que plaire, séduire même. C'est la carte de visite de l'immigré slave mécanicien de précision, devenu fonctionnaire international. Alors, il ne s'approche pas, pas tout de suite. Il observe, un long moment. Jusqu'à ce que le concert soit fini, que commence le bal. Maintenant, il s'avance vers le père, son père à elle. Il s'incline, demande l'autorisation de danser avec elle. Il est exaucé. Il lui tend la main, il l'emmène sur la piste. Son sort, leur sort, est noué, définitivement.
C'était Sandrine Fabry avec des extraits du roman La Béance, enregistré le 5 juin 2011 à Soleure.